Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Le Guay.
Nous avons la chance et l'avantage de recevoir aujourd'hui Jacques Julliard pour deux livres, surtout L'argent, Dieu et le diable, Peggy Bernanos, Claudel, face au monde moderne, publié chez Flammarion, et une réédition en poche chez Flammarion. Jacques Julliard, donc, Le choix de Pascal. Alors, il semblerait, Jacques Julliard, que le temps des bilans, des hommages, des regards un peu dans le rétroviseur soit venu pour vous. En 2003, donc, vous avez publié ce livre, Le choix de Pascal, qui sont des entretiens avec Benoît Chantre et qui est une sorte à la fois d'autobiographie personnelle et intellectuelle. En 2007, vous avez cédé la totalité de votre bibliothèque, de vos papiers à la Bibliothèque nationale. Et en 2008, donc aujourd'hui, vous sortez ce livre, L'argent, Dieu et le diable, qui est un plaidoyer, une reconnaissance de dette à l'égard de Peggy, Bernanos et Claudel, et qui reprend un certain nombre d'articles ou de contributions que vous avez pu faire dans différentes revues, et en particulier dans l'amitié à Charles Peggy.
Je précise quand même que la majorité de ces textes sont inédits. Hein. J'ai repris des textes qui avaient en effet paru, notamment sur Peggy, mais j'ai conçu le livre comme une totalité et je l'ai complété. Pas autant que j'aurais voulu, mais enfin, et c'est un livre, ce n'est pas tout à fait un recueil d'articles.
La partie initiale, enfin, c'est effectivement la partie article, et puis effectivement, c'est constitué avec ces éléments de rencontre personnelle enfin, que vous avez fait. Il me semble que dans ces deux livres, il y a comme un double souci. D'une part, la volonté de réconciliation. De réconciliation d'une anthropologie chrétienne avec la question du péché originel et puis d'un cadre historique socialiste, disons, pour le faire vite. Et donc, c'est votre travail, ce que vous avez fait donc, avec Benoît Chantre, ce souci de réconcilier Pascal avec la gauche. Et puis il y a aussi, qui traverse, et en particulier dans ce dernier livre, une forme de requiem, enfin pour un monde perdu, enfin quelque chose, ces trois morales, aristocratiques, chrétiennes et socialistes, qui ont été d'une certaine façon balayées par le règne de l'argent et par ces valeurs non marchandes. Alors venons-en à ce dernier livre, donc conçu comme un livre, même si à l'origine il y a des articles déjà publiés. Et donc là, effectivement, vous rendez hommage, enfin, vous regardez avec une attention particulière dans votre parcours biographique et par rapport à votre travail d'intellectuel, ces trois auteurs catholiques, Claudel, Bernanos et Peggy. Alors, comment est-ce qu'on peut lire ce livre? Il me semble qu'il y a trois manières de le lire. La première, c'est, disons, tout ce qui concerne des rencontres personnelles, datées précisément avec ces trois auteurs. Et donc des points d'ancrage qui vous ont permis, vous, de réagir ou de vivre intellectuellement de ces auteurs-là. Deuxième chose, une forme de réhabilitation ou un plaidoyer, comme un Jacques Julliard avocat, plaidoyer donc de ces trois auteurs-là vis-à-vis de la gauche, ou vis-à-vis d'une certaine gauche, ou vis-à-vis d'une certaine gauche qui juge toujours que ces auteurs appartiennent, pour le faire vite, et puis on pourra développer, à la France moisie. Et puis, troisième lecture, en creux, une critique en s'appuyant sur ces auteurs du monde d'aujourd'hui. Et on verra effectivement ces questions de journalisme, d'argent, de laïcité. Donc il y a trois Jacques Julliard dans ce livre. Celui qui prend goût, et peut-être depuis Le choix de Pascal, à la confession, et qui raconte, qui se raconte, sans tomber dans le biographique personnel, ce qui était plus le cas du choix de Pascal, mais des éléments de point d'accroche. Le Julliard avocat, contre ou avec sa propre famille, disons, c'est cette gauche, et puis celui qui critique effectivement le monde moderne. Alors, pour mieux vous comprendre, on va essayer de faire ça par étapes, si vous le voulez bien, peut-on dire de vous que vous êtes, d'une façon, le dernier Mohican, enfin, ou un des derniers Mohicans d'une certaine gauche, à la fois anti-totalitaire et non marxiste, chrétienne et non cléricale, intelligente parce que, n'étant pas particulièrement sectaire, cette gauche que le Nouvel Observateur a incarnée avec des figures comme François Furet, comme Jean Daniel, comme Ona Ozouf, comme y a plus longtemps.
Maurice Clavel.
Maurice Clavel, voilà, exactement. Alors, comment est-ce que vous définiriez cette gauche-là qui est la vôtre? Et d'une certaine façon, peut-on dire que cette gauche-là existe encore, indépendamment de vous, mais existe encore ou est peut-être sur le point de disparaître?
La réponse est complexe. En un sens, oui, je suis le dernier des Mohicans. J'ai lu ça dans la presse, d'ailleurs, des articles très sympathiques qui m'ont été consacrés, parce que si j'avais à chercher dans mes relations ou dans, je dirais, le personnel disponible, aussi bien à Paris que dans le reste de la France, je ne trouverais pas, en dehors de quelques vieux amis, compagnons de route, tellement de gens qui réagissent comme moi. Alors, de ce point de vue-là, c'est bel et bien une veine qui tend à se tarir, mais je dirais qu'elle n'est pas la seule. Il y a beaucoup de veines qui sont en train de se tarir dans la France d'aujourd'hui. Si je me limite simplement à la gauche, ce que l'on appelle... Enfin, la gauche mitterrandienne est en train de s'épuiser complètement. Il ne reste plus que des souvenirs que certains trouveront glorieux, d'autres beaucoup moins, de la période mitterrandiste et du type d'inspiration qui était la sienne. Soit dit au passage, Mitterrand n'était pas insensible ni étranger au monde que j'aborde ici. J'ai eu l'occasion d'en parler avec lui et on a même des échanges aigre-doux sur le sujet parce qu'il me disait, vous êtes un petit peu ce que vous venez de me dire, vous êtes le dernier des Mohicans. Et moi, je répondais non, d'une certaine manière, c'est vous. Et d'une certaine manière, il me disait un jour, vous voyez qu'on arrive à s'entendre. Je lui dis, pourquoi pas? Et il me dit, mais ce qui nous différencie, c'est que vous êtes un démocrate chrétien. Je lui dis, je ne l'ai jamais été, je n'en dirai pas autant de vous. Mais moi, si vous voulez ma définition, je suis un socialiste religieux. Ah, ça l'a laissé bouche bée, parce que c'est assez rare qu'il laisse le dernier mot à son interlocuteur. Là, c'était le cas, c'était une petite victoire. Mais pour revenir à mon sujet, il est vrai qu'il y a là une veine qui est en train de se tarir, parce que les auteurs chrétiens ne sont plus à la mode, comme le christianisme n'est plus à la mode, je vous dirais que je m'en fiche complètement. Je veux dire que si on est chrétien, on pense que Jésus n'est pas venu sur Terre pour faire du recrutement. Il n'est pas là pour faire du chiffre, comme on dit dans les partis. Donc c'est un problème assez secondaire. Mais de ce point de vue, du point de vue de religieux. Maintenant, si on se place du point de vue temporel ou du point de vue politique, je ne suis pas sûr que ce tarissement soit définitif, bien au contraire. Ce qui me frappe, d'abord, j'ai été surpris d'un accueil beaucoup plus attentif à ce livre que je m'y attendais, au point que j'avais proposé à mon éditeur de le publier directement en poche, en disant ça fera mémoire, ça fera étape, mais j'ai l'impression que ça n'intéressera pas beaucoup de monde aujourd'hui. C'est le contraire qui s'est produit, en tout cas, si j'en juge par les réactions de la presse, et pas seulement de la presse de droite ou de la presse catho, mais aussi de la presse de gauche. J'ai eu un grand article dans Libération, je ne m'y attendais pas. Donc, et pourquoi cela? Parce qu'au fur et à mesure que la société se laïcise, elle se laïcise de plus en plus. Le christianisme est une religion minoritaire et les auteurs dont nous allons parler sont à plus forte raison des auteurs minoritaires. Mais il y a une universalisation de beaucoup de valeurs chrétiennes dans la société moderne. C'est ce qui me frappe énormément. Les valeurs dominantes de cette société, ce sont des... Je ne parle pas de celles qui sont diffusées par les classes dominantes, par la télévision, qui là, au contraire, est tout entière du côté de l'argent. Mais quand je vois les réactions de la jeunesse, quand je vois les réactions même des altermondialistes, je prends ces deux exemples parce qu'ils sont aux antipodes de Bernanos ou Claudel. Il y a là un type d'exigence assez proche de ceux que voulaient promouvoir les tenants d'une société chrétienne. Moi, c'est une chose qui me frappe énormément. La plupart des valeurs héritées de la Révolution française et du socialisme sont, comme l'a bien montré le père de Lubac dans sa postérité intellectuelle de Joachim Flore, sont des valeurs chrétiennes laïcisées. Donc, de ce point de vue-là, oui, c'est vrai que c'est une veine qui se tarit. Non, parce que c'est quelque chose qui ressurgit à tout moment et sous des formes inattendues. Et donc, j'exclurais pas du tout que, y compris ses auteurs, redeviennent à la mode. Je constate d'ailleurs un regain d'intérêt pour Peggy à l'heure actuelle. C'est minoritaire, mais chez certains écrivains, chez certains philosophes, chez certains intellectuels. Donc, tout n'est pas perdu.
Non, tout n'est pas perdu, mais ce qui est quand même singulier, c'est que cette seconde gauche, disons, enfin cette seconde gauche à laquelle vous appartenez d'une manière ou d'une autre, qui a le courage de reconnaître les dettes de la démocratie à l'égard du christianisme, ce qui n'est pas extrêmement courant, alors qu'on est plutôt dans un geste révolutionnaire qui est plutôt celui de la coupure, de l'homme nouveau, voilà, qui est plutôt le geste fondateur, disons, d'une certaine tradition de gauche. Est-ce que donc cette reconnaissance de dette, cet affichage de valeurs chrétiennes qui sont effectivement les vôtres, sans tomber pour autant dans les chrétiens de gauche, comme on disait, autrefois, est-ce que ça, cette posture-là, n'est pas, excusez-moi de revenir sur mon idée d'origine, mais en train de disparaître d'une manière ou d'une autre? Et vous dites... Je trouve dans mon socialisme une manière d'exprimer des convictions chrétiennes. Donc, sans mélange ni confusion.
Sans mélange ni automaticité. Autrement dit, moi, je trouve dans mes engagements politiques le prolongement de mes sentiments religieux, mais je ne dirai jamais qu'il y a une sorte d'automaticité de l'un à l'autre. Je veux dire que ce que je reproche aux cathos de droite comme aux cathos de gauche, c'est précisément de dire les valeurs chrétiennes conduisent nécessairement à soit une société d'ordre, une société conservatrice pour les uns, soit pour une société révolutionnaire pour les autres. Moi, je pense que le christianisme est bien au-delà de cela. Et donc, de ce point de vue-là, c'est des engagements personnels. Mmh. Encore une fois, je ne crois pas que ces valeurs disparaissent, je pense au contraire qu'elles se généralisent, mais elles sont absolument diluées. Diluées dans l'individualisme ambiant, de sorte que, vous savez, toute époque est contradictoire, il n'y a pas de courant qui n'engendre un contre-courant, on est dans une société de plus en plus individualiste, égoïste même, mais en même temps, une société où la revendication de valeurs communautaires n'a jamais été aussi forte. Alors, elle se recherche dans des communautés plus ou moins discutables ou frelatées. Le communautarisme, comme on dit, me paraît un grand danger du moment. Mais il y a dans ce communautarisme, il faut le constater, l'aspiration à quelque chose de différent de ce que les gens sont en train de vivre. De sorte que, moi je dis que l'éclipse actuelle du christianisme en tant que source d'inspiration est une chose évidente. Je suis convaincu que c'est quelque chose de provisoire. Je suis comme Chateaubriand, c'est-à-dire assez pessimiste à court terme et très optimiste à long terme. Je pense aux dernières pages des Mémoires d'Outre-Tombe où il explique que le christianisme est l'avenir du monde, non pas sous la forme traditionnelle qui a été la sienne, mais sous une forme beaucoup plus prophétique et nouvelle.
Alors pour cette deuxième gauche à laquelle vous appartenez, vous reprenez dans ce livre-là ce qui était explicite dans Le Choix de Pascal, vous reprenez cette critique de certaine façon d'une deuxième gauche qui aurait sous-estimé la politique. Et en quoi est-ce qu'elle aurait sous-estimé la politique? En ceci qu'une certaine façon, elle aurait sous-estimé la question du mal, la question, pour le faire vite, ce que à titre personnel vous avez, vous, pleinement conscience, à savoir la notion de péché originel. D'où l'idée, effectivement, pour faire vite, d'un Pascal adopté par la gauche, voilà, et donc d'une réconciliation entre un pessimisme, question du mal, et un progressisme, l'avenir, le socialisme, la gauche. Est-ce que vous considérez que là aussi, cette réconciliation à laquelle vous appelez est illusoire au sens du basculement des idées? Est-ce que vous êtes le seul à le faire? Ou est-ce que vous considérez qu'il y aura toujours cette opposition entre, disons, un Pascal, pour le faire vite, de droite, et effectivement un optimisme affranchi, de cette façon, du péché, de gauche?
Alors, il faut le faire très vite, parce qu'effectivement, moi je ne crois pas que Pascal soit de droite. Je ne pense pas non plus qu'il est de gauche. Justement, il est au-dessus de cette catégorisation.
Enfin, si vous voulez réconcilier Pascal avec la gauche, c'est que, a priori, il est plutôt ailleurs.
Absolument.
Ce qui ne veut pas dire qu'il le soit en tant que
tel. Moi, je ne voudrais pas réconcilier Pascal avec la gauche, je voudrais réconcilier la gauche avec Pascal.
Voilà.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Je suis parti d'une note que j'avais trouvée dans un livre de de Frossard qui disait, vous savez, le malheur, c'est que la gauche ne croit pas au péché originel et la droite ne croit pas à la rédemption. C'est une manière évidemment religieuse, chrétienne, d'exprimer cette chose, à savoir que l'optimisme de la gauche est un optimisme qualifié de pré-auschwitzien. On ne peut pas être optimiste à la manière de Rousseau, et encore, il faudrait beaucoup discuter à propos de Rousseau, parce que Rousseau n'est pas optimiste. Rousseau croit à une sorte de péché originel laïque. C'est la chute dans la civilisation. Donc, le cas Rousseau est compliqué. Mais enfin, le rousseauisme, lui, est une sorte d'optimisme béat. Pas Rousseau, mais le rousseauisme. Ce qu'on a tiré de Rousseau. Mmh. C'est-à-dire que l'homme n'est pas spontanément méchant, c'est la société qui l'a rendu méchant. Rousseau lui-même était plus nuancé sur ces choses-là. Bon, mais il n'y a de mal que dans l'ignorance et dans l'injustice. Je ne crois pas, c'était le point de départ de mon livre, de ma discussion avec Chantre, le choix de Pascal, c'était le choix de Pascal contre Rousseau, justement. C'était le point de départ de mon livre. Je pense que de ce point de vue-là, si on parle de la gauche à partir des hommes qui la représentent, des politiques, alors il y a du chemin à faire. Hein. Parce que ce qui les caractérise quand même aujourd'hui, c'est une ignorance encyclopédique de ces problèmes. Et deuxièmement, un manque d'intérêt de la plupart d'entre eux. Un manque de sensibilité sur ces problèmes. Et pourtant, ce sont leurs problèmes, autant que les nôtres, au moins autant que ceux de n'importe qui. Autrement dit, un homme de gauche qui prétend changer la société sans se poser aujourd'hui la question du mal, qu'il aurait fait comme des socialistes d'avant 1914, et encore, même avant 1914, Péguy, Sorel et combien d'autres se posaient la question du mal. Et Sorel, nous le savons très bien, reprochait à Jaurès déjà, avant Auschwitz, de ne pas se poser la question du mal. Vous savez, la fameuse réponse de Péguy à un mot qu'aurait prononcé Jaurès, qui est « rien ne fait mal ». Ah oui, rien ne fait mal. Et alors, comme toujours, chez Péguy, sort 50 pages de démonstrations, d'invectives, de prolongements de toutes sortes. Mais je veux dire qu'on ne peut plus gouverner innocemment, si on n'a jamais pu. En tout cas, l'expérience du XXe siècle, le fascisme, le communisme, les camps, les guerres, celles de 14 et celles de 39, l'existence de l'arme nucléaire et bien d'autres choses, la famine dans le monde, que sais-je, ne permettent plus de dire simplement, eh bien, développons l'instruction, développons l'industrie, l'économie et tout ira bien. Il y a bel et bien une strate radicalement étrangère à l'idée économique, à l'idée d'intérêt, et c'est dans cette strate qu'opère, je dis le diable, de manière symbolique, en tout cas que le mal continue d'opérer. Et le mal continuera d'opérer, je le regrette, même dans la société idéalement la plus parfaite qu'auraient pu construire les hommes. Voilà, je crois, une sorte de préalable, de prolégomène à la politique qui n'est jamais posé ou rarement posé. C'est ces prolégomènes que j'ai voulu souligner à partir de mes auteurs.
Et alors, toujours pour rester sur la gauche et toujours pour en finir sur cette question de votre plaidoyer à l'égard de la gauche pour cette réhabilitation au sens de la prise en conscience du mal, ça me faisait penser effectivement à ce débat en 72 entre Philippe Solers et puis Maurice Clavel. Et Maurice Clavel lui disant, n'oublie pas de te poser la question, qui t'a fait homme ? Qui t'a fait homme ? Et on a l'impression qu'effectivement, donc cette question du christianisme, enfin, que cette interrogation de Maurice Clavel contre Solers est un peu en filigrane, même si elle n'est pas présente, de votre travail, à savoir effectivement, qui t'a fait homme, à la fois sur la question du mal et à la fois sur la question, effectivement, de l'humanisme hérité.
Je me réfère d'ailleurs à ce débat, quelque part, dans l'un de ces deux livres, je ne me rappelle plus où. Je me réfère au débat entre Clavel et Solers. Clavel, que j'ai connu à la fin de sa vie, et qui un jour me dit « Qu'est-ce que vous faites en ce moment ?» Je lui dis « Voilà, je fais un livre qui s'appellera probablement « Libération ». Et il m'a dit « Ne dites pas « Libération », dites « Délivrance ». Et pour moi, c'était un trait de lumière, parce que délivrance, c'est le mot de Pascal, c'est le mot de Sorel, c'est le mot de Claudel, et c'était le mot de Clavel que j'aimais beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire ? Délivrance, c'est la délivrance par rapport à quelque chose d'essentiel qui est justement le mal. Dans l'idée de libération, il y a une idée beaucoup plus banale qui essaie de faire tomber les chaînes. Tant mieux, il le faut, naturellement. Mais je dirais que libération est un concept politique. Et délivrance est un concept métaphysique. Et c'est par rapport au mal. Et là, c'est toute une métaphysique sous-jacente qui, je crois, doit être prise en compte, questionnée, parce que, encore une fois, qu'on soit croyant ou non croyant, la question de la radicalité du mal se pose. Vous voyez, chez Hannah Arendt, par exemple, c'est quand même la question qui surgit dès que l'on parle d'Auschwitz, que l'on parle du nazisme, du problème juif au XXe siècle. Voilà, je crois quelque chose que je pense que les gens comprennent beaucoup plus facilement que les politiques. Les politiques sont engoncés en quelque sorte dans la mécanique. Les gens se posent davantage la question des fins même de l'action politique.
Nous allons, si vous le voulez bien, observer une petite pause et nous reprenons notre discussion.
Retrouvez nos émissions consacrées à l'histoire en compagnie de Christophe Dickès dans notre émission Un jour dans l'histoire. Témoins, acteurs, les plus grands historiens contemporains sont invités sur Canal Academy à partager leurs points de vue, leurs analyses, leurs travaux historiques. Découvrez également les rubriques Éphémérides et Portraits. Éphémérides revient sur une date charnière de l'histoire. Les portraits sont consacrés aux personnages influents. Toutes ces émissions sont sur Canal Academy en libre téléchargement.
Nous reprenons, Jacques Julliard, notre entretien à propos de votre livre « L'argent, Dieu et le diable ». Et nous avons vu dans une première partie qu'effectivement, cette deuxième gauche, enfin cette gauche à laquelle vous appartenez, cherche toujours à reposer la question à la fois de l'homme, des racines chrétiennes, ou du moins de l'héritage chrétien de la démocratie, et puis cette question du mal qui est toujours présente et qui ne peut pas être, dites-vous, reportée, déportée sur simplement les questions des structures, donc ce rousseauisme mal compris qui est certainement dominant. Alors, venons-en, si vous voulez bien, au cœur de votre sujet, à savoir cette rencontre, ou ces rencontres, ces trois rencontres faites par vous avec ces auteurs. Vous indiquez clairement à quel moment est-ce que vous avez rencontré. Donc, vous avez rencontré Peggy en Hippocagne, vous avez lu Ève, Notre jeunesse et de la raison. Claudel, vous le connaissiez dans votre scolarité. Assez peu au début, mais vous l'avez découvert, il vous a explosé au visage d'une certaine façon au Festival d'Avignon en juillet 87. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que vous considérez ces trois auteurs-là comme, dites-vous, des instruments d'émancipation intellectuelle, considérant qu'ils ont eu la capacité de vous arracher à la vulgarité ambiante, je vous cite. Donc pourquoi eux et pas d'autres? Et pourquoi des auteurs plutôt, disons, pour aller très vite et être toujours un peu dans la caricature, de droite plutôt que des auteurs de gauche?
Il y a une part de hasard, forcément. Plusieurs personnes, des amis qui, attentifs à ce que j'écrivais, m'ont dit « Mais tu fais un livre sur l'argent, Dieu, le diable, on attendait Léon Blois. Il n'y a pas Léon Blois. » Ben oui, il y aurait pu y avoir Léon Blois. Je suis lecteur, j'ai lu Léon Blois, j'admire Léon Blois, mais il se trouve qu'il n'a pas joué dans ma... je dirais, dans ma formation intellectuelle, dans la formation de ma sensibilité, un rôle comparable à ces trois-là. À l'autre bout, on aurait pu dire aussi Mauriac. Et tout ça, c'est l'univers de Mauriac aussi. Et lui-même était lecteur de plusieurs de ceux dont nous parlons. Eh bien, Mauriac, que j'admire beaucoup, qui est, je dirais, presque est un modèle pour moi et pour n'importe quel journaliste, n'a pas joué non plus ce rôle-là, ni le romancier, ni même l'homme d'action qu'il a été, enfin l'intellectuel engagé qu'il a été. Donc, il y a une part de hasard dans leur choix. Alors, il est vrai que j'ai cette tendance à toujours aller chercher ailleurs que dans mon camp ou dans ma manière de penser, des aliments pour prolonger ma pensée. C'est si vrai que, de manière un petit peu provocatrice, j'avais fait mon mémoire de diplôme en histoire sur Maurras. ça avait absolument ébahi mon caïman, comme on dit à l'école normale supérieure, mon caïman de normale supérieure. Qu'est-ce que tu vas chercher là ? À l'époque, on était dans l'univers des annales, et évidemment, c'était l'histoire économique, et non pas l'histoire politique, et surtout pas celle-là qui était à la mode. Donc, moi, j'ai toujours essayé de penser contre moi-même. J'ai très très peur des intellectuels, je le suis, c'est pas la peine de le nier, mais j'ai très très peur de l'influence des intellectuels en politique s'ils ne font pas ce travail préalable qui est essayer de penser contre soi-même. Alors, cela dit, est-ce que ce sont des auteurs de droite ? C'est ce que j'essaye de nier. Dans le cas de Peggy, ce n'est pas un auteur de droite. Il est objectivement de droite à la fin de sa vie, lorsqu'il a évolué vers le nationalisme. On peut le classer à droite, et moi, je le classe à droite. Il y a certains péguistes qui voient une sorte d'atteinte à la statue. Mais non, je crois qu'il évolue vers la droite, objectivement, mais que... fondamentalement, c'est un homme de gauche. Toute la première partie de son œuvre est marquée par cela. Son anarchisme n'est pas un anarchisme de droite, c'est un anarchisme de gauche. Ce n'est pas un péguiste comme vous qui m'interrogez que je pense qu'il est nécessaire de l'expliquer bien longtemps. Bernanos est un homme, et c'est ça qui m'intéresse, Bernanos est un homme qui passe objectivement de la droite à la gauche. Enfin, à la gauche, il aurait peut-être récusé le mot. Dès qu'on emploie ces mots-là, ils ont une signification conventionnelle, et non pas ontologique, hein. Il faut bien le préciser. Mais il est de fait que Bernanos démarre à droite et même à l'extrême droite, compagnon de route de Maurras, camelot du roi, auteur d'un livre à la fois remarquable par certains aspects, épouvantable par d'autres, qui est La grand-peur des bien-pensants, cette apologie de l'antisémitisme de Drummond. Et ce qui est intéressant chez lui, c'est la capacité, et ils l'ont tous les trois, la capacité de la conversion. En un sens peut-être religieux, encore que Bernanos n'en avait pas besoin, il avait toujours resté fidèle au christianisme de ses origines. Mais la conversion, elle est éclatante chez Claudel, le pilier de Notre-Dame, et elle existe chez Peggy, parce que c'est un chrétien qui se convertit au christianisme, d'une certaine manière. Et donc, cette conversion est quelque chose de très important chez eux. Et je montre que Claudel, qui lui est un vrai homme de droite, alors pour le coup, il n'y a pas de contestation là-dessus, mais c'est un homme de droite d'une espèce très particulière et qui m'intéresse parce que lui aussi essaye de penser contre lui-même. Et au passage, je fais quand même justice d'un certain nombre de calomnies dont il est l'objet et qui sont scandaleuses.
Absolument. Il y a une autre raison pour laquelle on peut imaginer que vous aimez ces auteurs-là, dans le souci qu'ils ont de concilier des contradictions qui ont l'air apparentes. Ils sont de gauche et de droite, ils sont réactionnaires et progressistes, ils sont ancien régime, ils sont révolutionnaires, à la fois. Hein. Et d'une certaine façon, est-ce qu'on ne peut pas dire que vous êtes vous-même dans ce travail de conciliation impossible, enfin d'une certaine façon, vous dites de vous-même que vous êtes à la fois social-démocrate, réactionnaire et anarchiste.
Oui.
Et dans ce dernier livre, qui a été beaucoup relevé, vous dites « Je suis psychologiquement athée, culturellement anticlérical et spirituellement chrétien ». Donc est-ce qu'il n'y a pas chez ces trois auteurs-là le souci d'une conciliation et, ce qui rejoint quelque chose qui est plus important, peut-être, vous retrouvez chez eux une forme de dramatique humaine que vous ne retrouvez pas peut-être dans d'autres auteurs et qui correspond à quelque chose de profond chez vous ?
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, à un mot près. C'est le mot conciliation qui ne les caractérise pas, pas plus que, pour autant que j'ose me comparer à ces grands hommes, ils me caractérisent moi-même. Ce qui a toujours dominé ma manière de penser, c'est que j'ai toujours pensé qu'il y avait deux dialectiques. Il y avait la dialectique binaire, qui est celle de Pascal, et qui est celle de tous ces hommes. Une dialectique binaire où les deux branches de la contradiction avancent en même temps, mais n'aboutissent pas, ça n'aboutit pas à l'extermination d'une des branches au profit de l'autre. Alors que dans le système, qui n'est plus le système pascalien, mais la dialectique tertiaire, trinaire, qui est celle de Hegel, eh bien, il y a la fameuse dialectique T thèse, antithèse, synthèse. Et la synthèse est d'une certaine manière, alors pour le coup, une conciliation ou un dépassement des deux éléments précédents. Or, chez ces hommes que j'admire, et dont je pense que Pascal est la racine profonde, eh bien, il n'y a pas destruction des contraires. Si vous voulez, que la gauche et la droite soient des choses qui doivent être dépassées, c'est certain. Mais ça n'est pas pour autant que la droite va disparaître ou que la gauche va disparaître. Ce sont des données essentielles de l'esprit humain. Et je pourrais en dire autant de la plupart des grands conflits philosophiques qui nous déchirent. Et moi, je crois que c'est dans l'idée d'une sorte de dépassement des contraires que les marxistes sont allés chercher les racines de ce qu'allait devenir le totalitarisme. Pour eux, par exemple, la société idéale, c'est une société où la bourgeoisie était détruite, où la paysannerie était détruite. Alors, dans leur esprit, c'était de manière très, très philosophique et pas matérielle. Seulement, il y a des gens qui ont pris ça à la lettre. Et la découlacisation, par exemple, c'était la destruction physique des paysans. La dialectique pascalienne, c'est une dialectique où les contraires continuent de s'affronter et produisent des résultats. C'est d'ailleurs comme ça. J'en vois une très belle illustration dans les dialogues tels que les fabrique Claudel. Si vous lisez les conversations dans le Loir-et-Cher, il y a un long passage d'ailleurs sur la dialectique et la conversation. Et il dit, au fond, il y a un furet qu'il faut faire avancer. On dirait presque aujourd'hui un schmilblick. C'est-à-dire que les deux ou les trois interlocuteurs, ils n'ont pas tellement à se combattre entre eux, ils ont à faire progresser cet objet commun qu'est l'objet de leur discussion. Eh bien, de la même manière, il me semble que la gauche et la droite, pour prendre cet exemple, ne disparaissent pas, mais sont deux manières de faire avancer une chose qui leur est commune ou qui devrait leur être commune et qui est le bien commun.
Pour abonder dans ce sens-là et pour prolonger un peu votre plaidoyer pour Peggy, il semble qu'il y a comme une, ce que vous appelez une scène primitive de la dérive inéluctable du socialisme, c'est le congrès de Japy. Congrès de Japy, décembre 1899.
19, oui.
Voilà, où effectivement la gauche, en train de se coaguler, de se constituer, de se réunir, considère qu'effectivement il faut qu'il y ait une vérité officielle, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit un peu dans l'idée de la synthèse hegélienne dont vous parliez. Mais est-ce que la défense que vous faites de ceux qui se sont opposés de la façon à laquelle ils pouvaient, donc Peggy d'une part, et puis votre ami, entre guillemets, Fernand Pelloutier, vous avez écrit un livre sur lui en 1971. Est-ce que cette défense de ceux qui se sont opposés à ce congrès de Japy, est-ce que ces deux personnages-là n'ont pas privilégié une gauche, disons, un peu rêveuse, un peu utopique, au détriment d'une gauche faite pour la conquête du pouvoir? Il y a bien cette opposition entre un Peggy un peu rêveur, entre guillemets, et puis un Jaurès qui, lui, a un objectif politique.
Et qui avale des couleurs.
Et qui avale des couleurs, et qui en fait avaler à d'autres aussi, par la même occasion. Mais est-ce qu'on n'est pas là au nœud, au centre d'un problème, effectivement, entre une gauche de conquête de pouvoir et une gauche un peu rêveuse, qui est un peu le travers que l'on reproche souvent à la deuxième gauche.
À la deuxième gauche, longtemps.
Celle de Mendès France, celle de Rocard, et peut-être vous, je ne sais pas, pour partie. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là-dedans entre être de gauche pour la conquête du pouvoir et privilégier, disons, Peggy contre Jaurès?
Elle existe, vous avez raison, et je ne vais pas m'en débarrasser pour le plaisir de faire avancer la conversation. Je pense qu'elle existe, qu'elle est une tension naturelle de la politique. J'ai dit, vous l'avez rappelé, que la deuxième gauche a souvent négligé la politique, parce que la politique, c'est justement la conquête du pouvoir. Donc, elle préférait parler des conflits dans la société, elle parlait plutôt de l'avènement d'une politique qui sera une politique de la société elle-même, et pas celle seulement des professionnels de la politique, ça n'est pas douteux. Ce qui nourrit la pensée de ces hommes, c'est que le pouvoir est un mal nécessaire, mais que c'est un mal quand même. Et là, je crois que c'est tout à fait fidèle à une certaine pensée, je dirais même pas chrétienne, mais biblique. Je crois que c'est Paul Ricoeur, grand philosophe, protestant, qui dans ses premiers livres explique bien que pour la Bible, le péché radical, c'est le pouvoir. Et donc, il y a là quelque chose et qui est irréductible. Et il est vrai que le pouvoir est quelque chose qui engendre le mal. Il n'y a pas de pouvoir d'un être sur un autre être, et à plus forte raison d'un être sur une collectivité, sans qu'il y ait de la casse, sans qu'il y ait du pouvoir. Peggy a traduit ça d'une manière dramatique. Hein, c'est l'opposition célèbre entre la mystique et la politique. Et pour ceux qui voudront bien lire mon livre, ils verront que sur ce plan-là, je ne donne pas systématiquement raison à Peggy. Bien au contraire, je respecte sa position, d'autant plus qu'à certains égards, c'est la mienne, ou en tout cas à certains moments de ma réflexion, de ma vie, de ma pensée, tout ce que vous voudrez. Mais en même temps, je dis que c'est un peu facile. Je dis que c'est un peu facile de dire « il y a la mystique » et qui se dégrade en politique. Mais si la mystique ne se dégrade pas en politique, à quoi sert-elle la mystique ? En tout cas, elle ne sert pas à faire de la politique. De la même manière, je remarquais qu'une distinction très proche, c'est celle que Max Weber a faite entre l'éthique de responsabilité et l'éthique de conviction. Alors Peggy, la mystique, c'est la mystique de conviction. Les politiques, c'est l'éthique de la responsabilité. Le vrai problème du politique, c'est l'articulation entre ces deux éthiques. Or, ni Peggy, ni Max Weber, d'ailleurs, ne proposent un commencement de... Justement, j'allais employer à mon tour le mot conciliation, peut-être pas le meilleur, mais d'aménagement de cela. Et pourtant, la politique, elle est là. Elle est pour... un homme de gauche de faire entrer le plus de responsabilités possible dans son éthique de la conviction, je schématise, et pour un homme de droite de faire entrer le plus de convictions possible dans son éthique de la responsabilité. Autrement, effectivement, on peut envoyer la mystique et la politique chacun de son côté, les vaches seront bien gardées, mais il n'y aura plus de vaches.
Donc vous êtes bien avec Peggy dans ce conflit, cette difficulté, enfin, entre effectivement...
Je pense. Voilà. Et c'est un conflit, une difficulté qui n'a pas de solution théorique. Je ne dis pas, voilà, je vais vous dire quelle est la solution. Il n'y en a pas. Et c'est pour ça que la politique n'est pas une science, c'est un art. C'est un art de la conciliation entre des choses inconciliables, sans arrêt. Je prends le cas du ministre des Finances. À chaque instant de sa journée, il a à arbitrer entre le désir du bien, donner de l'argent aux gens, et puis les contraintes du moment, qui est qu'il faut serrer les boulons. Mais je veux dire que c'est continuellement que ces deux exigences se contredisent, et encore une fois, il n'y a pas de solution universellement recevable à ce problème.
Je laisse donc les auditeurs lire toutes les pages que vous consacrez, effectivement magnifiques sur Peggy, que vous considérez comme le contemporain capital, hein, et qui a été habité, dites-vous, par un besoin de vérité comme aucun auteur de la littérature française n'a été habité préalablement, dites-vous.
Canal Académie.
Nous reprenons notre conversation avec Jacques Julliard à propos de son dernier livre, L'argent, Dieu et le diable. Et donc, je voudrais qu'on essaye de voir un peu de quelle manière est-ce que Jacques Julliard est aussi, vous êtes aussi un avocat de ces trois auteurs qui sont considérés par certains comme appartenant à la France moisie. On a l'impression que vous êtes un peu dans une querelle de famille, hein, et je vous cite, en vérité, on ne se déchire bien qu'en famille. Querelle de famille entre vous-même et puis tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, considèrent qu'il y a une moisissure, une idéologie française, enfin qui affecte de façon irrémédiable ces trois auteurs-là. Et la question essentielle, et vous êtes historien, qui semble séparer les deux camps, porte sur la naissance du fascisme, sur la thèse de Sternel. Donc, de manière générale, est-ce que vous pourriez nous dire de quelle manière vous vous opposez, si tant est que vous le fassiez, à cette idée d'une idéologie française, d'une France moisie qui engloberait ces trois auteurs?
Il faut préciser quand même une chose, c'est que l'expression de France moisie qui appartient à Solers ne s'applique pas systématiquement, notamment chez lui, à ces trois auteurs. Il est grand admirateur de Claudel. Mais il me dit, qu'est-ce que tu vas faire avec Peggy et Bernanos, qui sont, oh, peut-être pas moisis, mais enfin, d'abord, il trouve que Peggy est un très mauvais poète, on peut discuter, et puis Bernanos ne l'intéresse pas beaucoup, je comprends d'ailleurs pas pourquoi. Et il devrait peut-être le lire davantage. Mais peu importe, inversement, puisqu'il faut, je cite des noms à dessein pour bien montrer que c'est compliqué. Mon ami Alain Finkielkraut, avec qui j'en parlais souvent, est un grand admirateur de Peggy, comme on sait. Il écrit un livre qui s'appelle « Le mécontemporain » sur Peggy. C'est aussi une manière de dire que c'est le contemporain capital. En revanche, il est beaucoup moins sensible à Bernanos et à Claudel. Du moins, c'est ce qui m'a semblé. En revanche, il est vrai que chez les trois, il y a une sorte de refus du monde moderne, il y a un refus du monde moderne sous des formes différentes, mais qui peut les apparenter à cette forme de pensée. Et je voudrais que vous reformuliez la question.
Est-ce que vous ne croyez pas que la vraie opposition qu'il y a entre vous qui défendez ces auteurs-là, et puis, disons, pour le dire de façon plus simple, à l'égard de Bernard et Lévy,
donc, c'est ça.
Cette idée d'idéologie française,
oui,
donc il y aurait une matrice, 1880, 1910, une matrice qui est pré-fasciste. Et ce qui fait que Peggy, pour prendre le cas de Peggy, a un langage qui est un langage philosémite, mais en réalité, dit Bernard-Henri Lévy, il est antisémite. Il a une grammaire, un vocabulaire qui le range, disait-il au moment de l'idéologie française, dans le camp de cette idéologie française fasciste et qui va donner naissance au fascisme que nous connaissons. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, de votre côté, une remise en cause de cette idéologie française-là, de sorte que vous défendez des auteurs qui sont indéfendables?
C'est pas douteux que Bernard-Henri Lévy, à sa manière, qui est plus littéraire, Joseph Sternel, à sa manière, qui est plus historique, ont défendu cette idée qu'il y avait une idéologie française qui était pré-fasciste, que Peggy en faisait partie, que Bernanos, bien qu'ils en parlent peu l'un et l'autre, n'aurait pas de peine à rentrer dans leur schéma, qu'ils ont fait entrer Emmanuel Mounier, ils ont fait entrer toute une série de gens. Moi, je crois que c'est, dans le cas de Bernard-Henri Lévy, une connaissance insuffisante des textes. Moi, je suis persuadé que s'il avait lu Peggy comme je l'ai lu, ou comme les spécialistes l'ont lu, il n'aurait pas pu dire une chose comme ça. Peggy est au contraire l'homme qui a attaqué à la racine l'antisémitisme parce qu'il fait du juif. Non pas un être si facilement assimilable que ça. Peggy a des phrases très fortes sur l'identité juive. Et je crois que beaucoup de juifs se reconnaîtraient là-dedans aujourd'hui. Mais que cette identité, elle est très ancienne, que le juif n'est pas du côté de la modernité, qu'il est au contraire du côté des racines les plus profondes. Voilà la pensée de Peggy. Vous savez, le fameux passage où il dit que le juif lit depuis toujours, je crois que c'est dans de Jean Cos, vous savez, dans Peggy, tout est dans tout, alors que le juif lit depuis toujours, que le protestant lit depuis Luther, et que le catholique lit depuis Jules Ferry. En gros, je cite de mémoire, mais c'est à peu près ça. Il y a là une vision tellement contraire à celle que les antisémites ont des juifs, que je ne vois pas comment Bernard-Henri Lévy, j'en ai pourtant plusieurs fois parlé avec lui, mais il est très entêté, moi aussi d'ailleurs, je ne vois pas comment il pourrait continuer à soutenir ça. Je pense au contraire qu'il y a entre tous ces hommes une certaine idée de la France qui peut apparaître vieillie, mais en tout cas radicalement hostile au fascisme. C'est la pensée d'une France ancienne. Hein, on peut leur reprocher d'être passéiste, pas le cas de Claudel, mais on peut le reprocher à Peggy et à Bernanos, qui sont disciples sur ce plan. Mais on ne peut pas leur reprocher d'être fasciste. Le fascisme est le modernisme même. C'est le futurisme. Ce n'est pas pour rien que les futuristes se sont réclamés de lui. Au contraire, eux, il y a dans leur nostalgie plus ou moins réelle de la France ancienne, c'est au contraire une société qui ne détruit pas les ordres, comme le fait le fascisme, mais qui au contraire respecte les ordres. C'est une société de l'honneur, c'est pas du tout une société de la violence. C'est une société des relations personnelles, c'est pas une société de l'argent. Le fascisme est une société de l'argent, contrairement à ce qu'ils disent tous. Donc, on ne peut pas à la fois leur faire le reproche d'être passéiste et d'être fasciste. Il faut choisir. C'est l'un ou l'autre. Moi, je crois qu'il y a des aspects passéistes, encore une fois, chez Bernanos et Peggy, que personnellement, je n'approuve pas, même si c'est littéralement très beau. Ça n'existe pas chez Claudel, on faut très peu. En revanche, leur antifascisme est évident. Je dirais que le seul pour lequel ça pourrait être discuté, c'est Bernanos. Mais là-dessus, Bernanos a été très clair. Je parlais de conversation un peu plus haut dans notre entretien. Il y a eu une conversion de Bernanos aux valeurs, je ne dis pas de l'antifascisme, mais aux valeurs que véhiculait le général de Gaulle, la résistance. Et c'était bien ces valeurs-là auxquelles il s'est rallié.
Donc, il y a bien quand même, en filigrane de cela, peut-être que vous le ferez plus tard d'une autre manière, mais vous dites, je lis un peu ces auteurs, c'est une manière de lutter contre moi-même, enfin d'être en débat avec moi-même, mais aussi un débat interne à une certaine gauche qui, effectivement, a considéré que ces auteurs-là étaient jugés ou pouvaient être jugés par la récupération qui ont été faite de leur œuvre par certains, et que donc, ils sont... avec différents bémols, ils sont plus du côté de la droite, si ce n'est de l'extrême droite, plus du côté de l'antisémitisme que du philosémitisme. Et sur ce point-là, la question de l'antisémitisme, vous avez un chapitre très éclairant et très précis sur effectivement ce que les uns et les autres ont dit, ont fait précisément, et vous montrez bien quelle a été la position à l'égard de l'antisémitisme ou à l'égard du philosémitisme de ces trois auteurs.
Peggy est prosémite d'un bout à l'autre de son œuvre. Bernanos est un antisémite qui ne l'est plus et qui renonce à son antisémitisme. La formule qu'on lui a beaucoup reprochée, parce qu'elle est provocatrice, Hitler qui a déshonoré l'antisémitisme, comme s'il n'y avait eu jamais un honneur de l'antisémitisme. Ça, c'est du Bernanos. Mais il faut dire le contexte est différent. Et puis, Claudel, qui n'a jamais été très antisémite, qu'il est un peu comme tout le monde l'est, ou presque, au début du siècle, et qui, alors c'est sa caractéristique, qui devient prosémite à la lecture de la Bible. Chez Bernanos, c'est politique. Bien que ce soit un esprit religieux, c'est politique. Chez Claudel, c'est mystique et c'est religieux. Et de ce point de vue, je trouve incroyable qu'on continue de faire porter un soupçon permanent de vichisme et d'antisémitisme à Claudel, alors qu'il était un des plus anti-vichistes et un des plus courageusement solidaires des Juifs pendant la guerre. Là, je dois dire que beaucoup de mes amis de gauche qui m'ont lu me disent « Mais tu es sûr de ce que tu écris là ?» Ben oui, je leur dis simplement, il y a une ignorance absolument abyssale de la gauche sur ces problèmes.
Absolument.
Notamment, Claudel est le premier qui pose la question de la responsabilité du pape et des chrétiens dans ce qu'il est convenu d'appeler la Shoah maintenant.
Enfin, et, si je peux me permettre, plus exactement dans le silence.
Oui. Dans le
silence,
bien sûr.
Du pape.
Dans le silence.
À l'égard, effectivement, de l'extermination des.
Et quand même, en 1945, en tout cas avant Orhout, avant le débat sur le silence de Pie XII, Claudel écrit à son ami Jacques Maritain, qui est à l'époque ambassadeur près de Saint-Siège, et lui dit « L'Église devrait faire une repentance annuelle. » Je vais lire à nos auditeurs. Il me semble que la date, c'est du 13 décembre 1945. Donc, juste à la fin de la guerre, il écrit à Maritain, ambassadeur encore une fois, « Vous devriez parler au pape. Il me semble que les horreurs sans nom et sans précédent dans l'histoire commises par l'Allemagne nazie auraient mérité une protestation solennelle du vicaire du Christ. » Donc, et il dit, sur 18 millions de Juifs, 6 ont été massacrés, le tiers de la terre fut changé en sang. C'est ce sang, dans l'affreux silence du Vatican, qui étouffe tous les chrétiens. De la part d'un bigot, d'un papiste comme Claudel, en 45.
La gorille catholique, comme vous dites.
Le grand gorille catholique, c'est pas si mal, avouez. Mmh,
absolument, absolument. On n'aura pas le temps de développer cela, mais je voudrais qu'on termine là-dessus. Le troisième aspect qui a déçu certains, parce que ce n'est pas complètement développé, mais c'est la critique que vous faites de l'époque. Et je ne retiendrai qu'un élément qui m'a paru extrêmement éclairant. Vous dites qu'il y a en gros trois éthiques, trois morales, la morale aristocratique, la morale chrétienne et la morale socialiste. Toutes les trois, d'une certaine façon, sont unies pour valoriser la solidarité, les valeurs hors marché, et que tout cela a été progressivement balayé par le bourgeois, par le règne de l'argent, l'argent au sens du fric, voilà, du fric, etc. Donc, à partir de quand est-ce que vous voyez, vous imaginez ce basculement? Parce que Peggy, lui, on parle déjà en 1880, etc. Donc, dans votre esprit, quand est-ce que cet écrasement des morales anciennes au profit de l'argent a été
Peggy est d'une grande lucidité parce que à l'époque, la chose n'est pas évidente. Ou plus exactement, il est de l'esprit du capitalisme de faire régner la morale de l'argent par rapport à toutes les autres. Mais ce que je cite des textes de grands libéraux comme Adam Smith ou Pérou qui disent « Tant que le capitalisme reste dans sa sphère, c'est-à-dire celle de la production et de l'échange des biens, eh bien, cette morale de l'argent, non seulement n'est pas nuisible, mais est utile. » En revanche, lorsque le capitalisme prétend régenter avec ses valeurs monétaires et mercantiles des choses comme la vie de l'esprit, l'éducation, la religion, le sport, le jeu, la culture, enfin tout ce qui n'est pas monétaire, alors là, il y a ce que Peggy appelle une universelle prostitution. Et alors, vous me dites, quelle est la date? Moi, je crois que ce que Peggy avait vu avec perspicacité, ce qu'il faut bien le dire, le fascisme et le communisme dénonçaient, d'où leur succès à l'époque. On ne savait pas de quoi ils étaient capables, mais d'où leur succès à l'époque, c'est ce qui a éclaté, à mon avis, dans les années 1980, c'est-à-dire proche de nous. La décennie qui allait voir la chute du mur de Berlin, mais qui avait vu l'arrivée au pouvoir de Reagan aux États-Unis, de Margaret Thatcher en Angleterre, fait qu'il n'y avait plus aucune barrière, il n'y avait plus aucune résistance à la morale de l'argent. La morale aristocratique est morte progressivement. Elle s'est survécue par moments dans la littérature. La morale chrétienne a subi le sort des chrétiens dans la société, c'est-à-dire qu'elle est devenue très minoritaire. Et la morale ouvrière, qui est du même ordre, qui est une morale de solidarité, eh bien, elle a dépéri dans les années 60-70, de la même manière. Donc, de ce point de vue-là, nous vivons actuellement un grand tournant qui n'est pas seulement économique ou politique, mais qui est bel et bien anthropologique.
Et ça, on peut renvoyer nos auditeurs effectivement aux magnifiques analyses de Marcel Gauchet en particulier sur effectivement ce basculement
absolument.
Qui s'est opéré. Et peut-être que vous ne le diriez pas de cette manière-là, mais enfin cette démocratie égalitaire, celle de Tocqueville, qui s'est retournée d'une certaine manière contre elle-même, au point de nier ses propres valeurs.
Du reste, Gauchet a évolué là-dessus, car dans son premier livre, il y avait une confiance presque infinie dans les valeurs libératrices de la démocratie. Et dans ces derniers, il y a un point de vue beaucoup plus nuancé et beaucoup plus pessimiste. C'est-à-dire que je crois qu'il a réalisé, un petit peu comme j'essaye de le dire ici, que la démocratie s'accompagne. C'est un débat que j'ai eu longtemps avec Furet. S'accompagne de la montée des valeurs de l'argent et que là, il n'y a plus aucune résistance parce que les résistances ont cédé les unes après les autres.
Jacques Julliard, je vous remercie d'être venu comme ça nous voir. Je ne peux que recommander effectivement, à la fois pour tous ceux qui vous aiment bien et ils sont nombreux, et à la fois tous ceux qui aiment bien Peggy, Bernanos et Claudel, donc ce livre, L'argent, Dieu et le diable, qui vient de paraître chez Flammarion et qui donc a été cristallisé autour d'un certain nombre d'articles que vous avez faits, mais qui a été vraiment conçu comme un livre et qui est une formidable leçon aussi de lecture, hein, de lecture au plus proche des textes, contre des lectures trop hâtives, trop difficiles, et, ce que vous disiez, une manière aussi d'élargir les points de vue plutôt que de les réduire à des synthèses qui n'en sont pas, à des dialectiques qui sont mortifères, comme malheureusement l'histoire nous l'a révélé. Jacques Julliard, merci beaucoup.
Merci à vous.
Thank you.